Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Puis la maternelle, je suis solitaire comme un loup, tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire. Donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre. Ma mère croit que je perds la tête, mais pour pas qu'elle s'inquiète, je lui fais croire que je fais du blé.
Bienvenue à un nouvel épisode du podcast sans commentaire avec Jacob Ospian et Émile Coury.
Cette semaine, la puissance.
Cette semaine, on a reçu une femme qui c'est comme si on pouvait. Louis C.K. pète le cul à Dieudonné et il y a que du bon qui sort de ça.
Michel Desrochers.
Exactement.
Humoriste, humaine.
Marathonienne.
Humaine.
Activiste.
Humaine.
Littéraire.
Humaine.
Doctorat.
Vraiment? Boss queen, yes bitch.
Oui, vraiment, bro. Vraiment. C'est une femme, bro, avec ses mots, ça pèse, bro. C'est lourd.
Donc, prochaine date de bon que je suis sur patreon.com/sans commentaire sur le podcast. Ah. Si vous êtes des Funky ou des Gucci, 12 20 par mois, vous êtes nos producteurs, donc on fait un shout-out à chaque épisode. Gros shout-out à Alberto Cabal, Clams de Boire, Jara Bourget, les gens Strobin, Jess Benoît, Manuel Ingen, Marc-André Bernard, Nerson, Nicolas Biagel,
Ralph Younes, Adrien Botrel, Alexandre Pelletier, Alexandre Carvalho, Bluflic, Luc, Catherine Laperrière, David Rives, Dominique Pelletier, Flavie, François Lévesque, Hugo Fredeo, Gianni Arsenault, Jean-Sébastien Duchesne-Chiquan,
Jeff P. Jefferson, underscore Chakaranz, José Charlan, Karianne Portefin, Kiroaga, La Fénini, Luc Plamanon, Marc Chabot, Marc-Amel, Marie-Marie-Marie-Labarge, Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie, Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie- pauvre.
Dolores,
c'est quoi? T'as des douleurs dans les reins?
C'est quoi, Dolores? T'as des douleurs au portefeuille? Tu veux pas payer 12 dollars par mois?
Sérieux, merci. C'est vraiment apprécié.
Dolores, ça fait fucking depuis...
Depuis fucking mars
qu'il est là.
Ça part rapport. Merci beaucoup. De c'est vraiment apprécié.
Fucking nice, tout le monde qui est sur le Patreon. Vous êtes des bises, bro. Moi, j'ai pas de show à plugger.
Tous les jeudis, il y a les jeudis stand-up au Café Impérial. C'est moi qui l'anime, c'est à 20h, c'est au 3240 rue Rachel S, le micro torréfacteur. Il y a des vins nature, il y a des cafés succulents, il y a des bières locales.
C'est un très cool spot.
Insane, je t'anime ça, j'ai 4 humoristes. Émile, il vient quand il y a des couilles pour faire la chronique. C'est tous les jeudis, il y a de la place de parking, les billets dans la description. Sinon, je peux pas vous aider, c'est juste 40 places.
Sold out à chaque semaine, ça fait 4 semaines, c'est fucking nice.
Yes, merci.
Soyez là en grand nombre. Et pour ce qui est de l'épisode,
enjoy the show.
Yo, moi j'adore Louis C.K.
Ouais,
c'est,
ça
ouais, c'est vraiment mon best niveau de talent. Je commence à oublier la crosturbation.
C'est quelque chose qu'il faut oublier.
Ouais. Ben, dans son dernier, là, c'est comme chill. Son avant-dernier show. Là, tu sentais que c'est comme... C'était encore malaisant, tu sais.
Oui, l'avant-dernier.
Il y a comme... Tu sais, à chaque affaire... Ben, c'est comme quand tu découvres que tel humoriste, son personnage, c'est pas un personnage comme tu pensais. Tu sais, c'est comme ça te donne trop d'images. Puis là, tu fais « Ah, c'est pas des jokes, tu sais.
Ouais. »
Mais là, dans son plus récent, on est déjà ailleurs, puis c'est moins cringe, là. Mais c'est sûr que c'est, à chaque fois qu'il va aller dans ces sujets-là... Parce qu'en parlant à Christ, là, de se crosser, là, il y a des
de
vieux trucs,
de la
là,
pédophilie,
comme
de la
c'est best-of, ouais, c'était ouais. Ça.
Un moment donné, il est en entrevue avec madame, puis il dit « Ah, soir, je ferais me crosser en pensant à toi, tu peux rien faire, ma fille. » Puis là, comme...
Ouais, il parle de la religieuse.
Ouais, c'est ça.
C'est super ouais. Bon. Ouais. Mais là, c'est comme
là, tu vois qu'est-ce qui se passe, c'est comme...
Ça laisse un,
si bon.
Un petit goût de pénis en, dans la, en bouche, tu sais.
Exact, oui, vraiment.
Mais au niveau talent, ça reste dans mes faves. Même, moi, je t'ai dit, j'aime juste les fous, Jacob, je t'en parlais. Mon ouais. autre top, c'est Dieudonné. Fait que tu vois que genre... j'aime bien quand le génie
t'es
côtoie
pas trop
la...
Israël, toi, c'est ça que...
Non, ben écoute, c'est sûr, chacun ses goûts, hein.
Elle ouvre la tête. Elle a juste un drapeau de la Palestine sur son chest.
Elle a l'étoile de David, mais avec un gros X en rouge.
Oh man, mais tu es insane. C'est... On peut pas se cacher que le talent n'est pas nécessairement relié à, aux psychoses. Il y a...
Non, mais c'est ça. Il y a le génie, je pense, côtoie la folie. Mais moi, je, ouais. je trouve que j'en marque le plus pour des humoristes, c'est le côté une obsession. Genre, de sticker sur quelque chose. Oui. C'est très nous. Puis des fois, c'est positif, puis tu vas approfondir un sujet toute ta vie. Mais des fois, c'est comme tu tombes dans l'obsession, puis ouais. c'est là que ça te trahit parce que tu fais six shows. Ben, comme Dave Chappelle, c'est mon préféré, mais à un moment donné, t'as six shows sur les trans. C'est comme, je pense, le message a passé. Là,
on sait que tu veux les baiser, là. C'est ça, c'est on a grave. Compris, c'est
on
pas grave.
On sent ta fixation, mais ouais. au niveau de talent, on dirait toutes mes préférées, c'est moitié des génies, moitié des fous. Là,
ouais, moi, un de mes humoristes préférés, c'est un gars qui s'appelle Joey Diaz. C'est un gros cube. Qui a 60 ans, la vieille voix rauque, qui a,
il a fait oh, beaucoup,
il a beaucoup
de
cocaïne. Ouais. Sa mère est morte à 15 ans. Ouais. Il a fait de la prison, il a kidnappé quelqu'un. Puis là, maintenant, c'est rendu un père de famille, sa fille a 7 ans. Puis tu vois que c'est une des personnes les plus empathiques.
Il est sur Weight Watch.
C'est un animal.
Ouais, il est tellement cute.
Il
est sur Weight Watch.
Il met ses points dans ses trucs. Il parle comment il essaie de se remettre en forme pour rester vivant plus longtemps pour sa fille. Puis il est comme, moi, je suis supposé être mort. Là. Moi, je suis pas supposé être là. Sur tout le monde qui se plaint de leur situation, tout le monde qui travaille pas. Puis c'est fucking drôle parce que Joey Diaz, c'est un détraqué mental, gros cocaïnoman, ouais. ça fait comme 15 ans qu'il a arrêté, kidnapping, dans la drogue, tout.
Ouais, ouais.
Puis là, maintenant, c'est rendu que... Il fait des speeches une fois de temps en temps sur son podcast. Il va rentrer
super
dans
motivant.
Une vibe super motivante, mais c'est comme... C'est Uncle Joey, comme c'est le gros cubain qui est assis, la grosse voix rauque. Puis là, maintenant, c'est rendu sur TikTok que les jeunes vont le prendre puis ils vont mettre de la musique motivationnelle par-dessus.
Il est rendu un coach de
puis
vie.
Puis il est rendu un coach de vie sur TikTok. Il y a plein de vidéos, c'est Joey Diaz qui est comme « Better get up, motherfuckers! » Puis il y a de la musique motivationnelle en arrière.
Ah, si, qui est malade. Mais tu vois, il y a ce côté motivationnel, mais il y a ce côté qui va tout le temps être sénile, tout le temps fou. Il y a un épisode où sa sœur, elle meurt. Puis pendant l'épisode, il reçoit la nouvelle.
Hein?
Ouais. Il fait comme « Give me two stacks, my phone, just ring, check son téléphone. » Puis il fait comme « il fait oh God. Puis là, il fait juste dire, yo, je viens de recevoir une nouvelle, ma sœur est morte. Puis là, il fait comme, c'est comme ça qu'on finit le podcast.
Ouais,
là, il fait
comme, this is how you finish a podcast, motherfuckers. Puis il fait juste le.
Hey, voyons donc.
C'est vraiment le typique humoriste des années 90 qui est comme le clown triste, de genre, il fait rire les gens, mais à l'intérieur, il a vécu toute la merde. Puis ça me fait chier de pas avoir vécu plus de traumatisme dans mon enfance.
C'est ça l'affaire, c'est que des fois, mettons, on pensait qu'un humoriste jeune va être moins drôle. Mais ça, c'est une erreur. Puis je pense que c'est juste des fois quand on n'a rien à dire ou au début, on se demande de qu'est-ce que je vais dire, en fait. Puis le talent humoristique, il peut toujours être là. Mais des fois, à 20 ans, t'es comme, bon, je compte quel bout de ma vie, tu sais, le bout où je suis allé au cégep, puis c'était tranquille, genre, tu sais. Ça prend un bagage, des fois, pour trouver que je veux dire, ou tu sais, du moins que ça vienne naturellement de, j'ai quelque chose à compter.
Je sens beaucoup que c'est une émotion extrême, tu sais, comme je sens que les humoristes qui vont être capables de parler des choses vraiment deep, c'est qu'ils ont vécu, tu sais, comme quand le monde dit il faut que tu vives des affaires rough pour pouvoir en rire après, c'est pas que t'es obligé, c'est juste que je comprends que quand tu vas dans des endroits comme ça, c'est tellement des endroits avec des émotions vraies que quand t'en parles sur scène, il peut pas avoir de fake. Tandis que le cégep, que c'était le fun, les trois vont faire, je sais pas, bro, à quel point c'est vrai, tu sais.
Ouais, moi aussi,
je pense. Ta mère, elle a fait de la drogue ou genre ton père était absent puis ça t'a vraiment affecté. Là, t'en parles, t'es capable d'en rire, mais c'est comme... T'es tellement allé bas que je sens que c'est... T'es tellement vrai, tu sais.
Oui, puis souvent, il y a du monde qui ont développé ça de quand il arrive de quoi de grave, je fais des jokes. Fait que là, on dirait que ça les stimule plus humoristiquement de vivre ces affaires-là. Puis c'est pas parce que c'est nécessairement noir ou trash que ce qui est arrivé, mais au moins, il est arrivé de quoi, puis c'est ça qui stimule. J'ai l'impression que dans mes top moments de vie, là, que j'allais fucking bien, je bois des smoothies, genre, je suis vraiment contente, j'étais un peu moins drôle, genre, que quand tout va mal, genre, mais faut pas que j'aille drôle là-dedans. Je fais mes smoothies, là, mais...
je fais mes smoothies, mais là, ça m'écroule autour de moi, mais je fais mes smoothies, puis...
Quand ça fait mes smoothies, je me pique juste avant.
Quand je fais des textos, ma soeur est morte, je suis comme... Bzzz, j'en ai rien!
Mais il y a certains moments que ça arrive, que quelque chose de grave va m'arriver, puis je suis comme, yes.
Yeah, ouais, c'est ça.
Est-ce que t'as cherché ça? Je sais pas si t'as eu une jeunesse assez stable. Pas de parents cocaïnomanes, genre des...
Non, c'est ça. Vraiment pas des gros drames. Okay. Même, j'en ris dans mon show. J'ai un bout du divorce à mes parents, puis je suis comme, je sais que c'est pas facile, là, tu sais, cette affaire que la moitié du monde ont vécu, là. Mais ouais. On dirait que moi, quand même, j'avais un thinking noir un peu à cause que j'ai des études en littérature, fait que il y a ce côté là de la tristesse là dans mon
jeu. C'est très triste la littérature, comme les bons littéraires c'est sont tristes. Il y a personne qui est heureux qui écrit bien.
C'est rare, tu sais, c'est quand même souvent il y a quelque chose de il y a comme une mélancolie là-dedans, ouais. Là, tu sais. Mais moi j'ai eu des problèmes de classe moyenne, donc souvent c'est comme c'est pas si intéressant, tu sais. Puis souvent on a de la misère à faire la paix avec des affaires de notre enfance quand comme t'avais la bouffe, t'avais de l'argent, t'avais du linge sur le dos, puis tu dis, oh, je n'ai pas de traumatisme. Ouais. Mais des fois, tu fais la paix avec ça plus tard. Tu dis, ah, ça, c'était bizarre.
Ça, c'est vrai.
Il y avait toi-même baladeuse.
C'est ça. Comme mon oncle, il m'a dit, tu me passes-tu le gravy sauce? La main dans la cuisse n'était pas nécessaire.
À l'école privée ou publique, c'était pas nécessaire, cette main-là. Moi, ça m'arrive souvent. Comme mon père l'a eu assez rough, ma mère l'a eu assez rough à cause de la guerre. Puis même, on en parlait. Il y a des histoires qui continuent de ressortir maintenant. Ou est-ce que des histoires pendant la guerre, là, ou est-ce que quelqu'un qui est pas au courant de ce qui s'est passé ou de la réalité là-bas trouvait ces histoires traumatisantes. Mais comme des histoires, il y a une histoire récemment qu'on m'a fait savoir, que ma mère m'a fait savoir, parce que ma mère puis mon père étaient au Liban pour la première fois depuis une trentaine d'années. Puis pour faire une longue histoire courte, ils sont allés visiter un bloc appartement, puis il y avait un des noms dans les documents du bloc appartement qui était familier à mon père.
OK.
Celui-là, mon père, comme je connais cette personne-là, long story short, ce gars-là, quand il était...
Mais là, ils sont allés voir le gars?
C'est ça, ils sont allés voir le gars, puis quand le gars a vu mon père, ma mère lui a dit « j'ai quelqu'un à te présenter », puis elle lui a montré mon père, puis quand il a vu mon père, il s'est écroulé par terre, puis il a commencé à pleurer.
Ouais.
Pourquoi?
Un papa de famille.
Il y a 30 ans, pendant la guerre, quand mon père était au Liban, ce gars-là était avec sa famille... dans un bloc appartement, puis les ennemis, en guillemets, au moment-là, la guérilla syrienne-palestinienne, parce que c'était un peu une guerre civile entre tout le monde qui était là, tout le monde se tirait dessus.
Moi, j'ai la même opinion que Dieu donné la tribu. Je veux savoir.
Ce que Dieu donné pense de cette histoire.
Chacun leur goût.
Non, pour vrai, je sais rien. Je suis du bord à tes parents.
Exactement ça. Hey, tout le monde se tirait dessus. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. C'était de la fucking poubelle. So, lui était là avec sa famille et ils étaient coincés. Ils étaient au troisième, quatrième étage. Puis les ennemis étaient rentrés par le bas puis ils avaient tué tout le monde.
Ils faisaient juste étage, les civils à chaque étage.
Ils faisaient juste passer d'étage en étage.
Tu peux pas te sauver là, quand tu es dans cette situation.
T'es coincé, t'as des enfants. Je pense qu'ils étaient en bas âge. Puis comment, mais on va mourir.
Ouais.
Là, il entend du vacarme. Il entend des coups de feu. Il entend du monde se tirer dessus. Finalement, il y a un silence de genre 2 minutes. Puis là, il entend la porte se faire défoncer. Puis là, il est comme, OK, mais c'est fini. Puis c'était mon père puis son frère qui sont rentrés les sauver. So, ils ont
ils se prenaient pour fucking Rambo!
Ils sont tous clairés comme c'est une situation où est-ce que c'est pas nice de tuer des gens, mais t'avais pas le choix parce que c'est kill or be killed. Comme il y avait pas de... C'est la guerre. So, je reçois ces histoires-là, puis mon père, maintenant, est en train de...
Il a mal au dos!
Mon père passe le vacuum au bici, puis il chicane ma sœur parce qu'elle veut pas faire la vaisselle. Puis je suis comme, il y a même pas 30 ans, comme tu clignais de l'œil droit au mauvais moment, puis il y avait une balle qui passait à ta droite. Il y a ces histoires-là que comme j'écoute puis je suis comme fuck, est-ce que je l'ai eu facile?
Ouais. Oui. Ben, j'aime ça que t'entends l'histoire la plus touchante puis dérangeante que j'ai jamais entendue, puis t'es comme, je vais faire un 8 minutes là-dessus. Ça va être tellement bon.
C'est exactement ça. Puis que ce soit pour l'humour ou n'importe quoi, je suis comme fuck, est-ce qu'on l'a eu facile? Puis ça ne normalise pas. Comme ça veut pas dire qu'on n'est pas supposé remettre en question notre enfance, puis ça se peut que moi j'ai mal perçu, mais c'est souvent comme, moi c'est mes sentiments c'est ça, qui m'ont blessé.
Je veux pas oublier ça, je veux pas oublier le fait que lui est arrivé, il m'a raconté cette histoire-là, puis il était tellement pompé, puis moi, bro, quand il a fini son histoire, j'étais comme tabarnak, bro, comme on le vivait tellement qu'on était tellement sur l'adrénaline, puis à un moment donné, il a juste fait comme, moi je suis ici en train de me crosser, en train de fucking juste faire des jokes, puis je sais pas si je suis bon. Moi j'en parle ça à ma blonde, puis à mes cousins. En famille, je parle ça, que qu'est-ce que son père a fait. Toutes mes cousins sont comme, fuck, c'est boss. Fuck, bro, c'est intense. Ma blonde est comme, oh mon Dieu. Je pense que je vais pleurer.
Non, je l'ai pogné, moi, de la petite larme, le petit
frisson. Le petit frisson, ouais. Là, ma blonde est comme... Là, son père a vécu ça, puis nous, on est au chocolat favori. En train de manger du chocolat.
Puis nous, on se crosse au chocolat favori. Qu'est-ce qu'on fait ici? Jacob, il a trempé sa graine dans le truc avec les différents chocolats.
Puis là, ils vont devoir jeter tout le chocolat à la poubelle. Il y a du monde qui crève de faim.
Monsieur, arrêtez de tremper la graine dans le chocolat.
Le caramel fait un salé, OK?
C'est un frosting à la fois. On a dit un topping, monsieur. Ah, mais c'est touchant. En plus, le trauma, être traumatisé dans la vie, ça n'a même pas rapport avec l'affaire que tu as vécue. Ça a rapport avec la façon que tu l'as vécu. En fait, tu pourrais vivre une enfance super belle puis en sortir traumatisé parce que le trauma, c'est vivre une émotion intense qui te plaît pas seul. Fait que mettons que t'étais vraiment... t'as vécu quelque chose comme ça, mais t'étais bien entouré puis tu l'as bien processé, ça se peut que tu vis ta vie sans... porter ça comme un traumatisme, alors que tu peux avoir été comme ta mère n'est pas venue te chercher à ta pratique de soccer. Ouais. Cette fois-là, puis là, ça a comme imprégné de bon, moi, je me suis fait abandonner. C'est pas important, là, ta pratique de soccer, tout le monde s'entorche, là, t'es rentré à la maison à pied, puis. C'est pas grave.
T'as 3 minutes, là.
Mais la gravité des choses, c'est pas ça qui te cicatrise ou pas, c'est si t'es comme seul là-dedans, puis tu l'absorbes comme un abandon ou un rejet ou quelque chose comme ça. Fait qu'il y a des gens qui ont des vécus incroyables, tu sais, puis qui ont toujours le bonheur, le sourire aux lèvres, puis il y a du monde qui ont pas vécu grand-chose, mais là, ça a comme cicatrisé pas correct, puis tu portes cette blessure-là, tu sais.
Est-ce que c'est à cause que l'enfant est très conscient ou genre l'enfant ou comme tu sais, il y a des enfants qui vont vivre ces expériences là qui vont se faire oublier comme moi tu vois ouais est-ce que
il part, il craque, il est comme après c'est ça
que non mais c'est parce que je me rappelle tous les fois que mes parents m'ont oublié à mes cours de théâtre, bro, puis c'était pas leur faute là, mais tu sais, ma mère elle avait 3 jobs, puis elle arrivait, puis comme elle avait son chapeau de cuisine, son fucking tablier de coiffeuse, fait qu'elle était comme ah oui, ma mère, bro, puis elle arrivait, puis elle était fâchée, mais pas après moi, elle était juste fâchée parce qu'elle a été en retard, puis moi je l'ai attendue comme 30 minutes, mais ouais. Je me demande est-ce que c'est le fait que j'étais trop conscient que mes parents étaient pas là, ou il y a des enfants que sont tellement pas conscients que fuck leurs parents pas là, mais il commence à jouer avec le gazon, commence à se fouiller le nez, puis
c'est ça,
commence
c'est à prendre une marche. Ça dépend comment toi tu vas le vivre, puis si exact. Ce jour-là tu t'es dit ah, mais là je me sens abandonné, ça se peut que tu traînes ça, même si ton histoire, là, je te l'annonce, est zéro touchante, Jacob.
Ils sont sans calice, bro. Ta mère est en train de se fendre le cul pour faire
c'est 32 ma mère 000 qui est triste. Par année, puis... Moi j'ai regardé ma mère avec le fucking cours de théâtre, c'est comme to be or not to be, where were you?
Il est full dramatique.
Est-ce que tu t'en rappelles?
Ça, je me rappelle, bro.
Ça t'avait marqué?
Ça m'a marqué, mais comme.
Fuck, elle le sait. Oui, ben, c'est...
Vous avez une belle chimie, t'avais les gars.
Yo, j'étais vraiment vieux, bro.
C'est genre la fin
c'est
semaine.
C'est ça le problème.
Il était juste debout
demain. Yo, j'avais genre 14 ans. J'étais quand même vieux, mais ouais. On dirait que... Mais c'est parce que je pense que j'ai beaucoup vécu l'abandon, comme j'ai pas eu un père super présent. Je pense que c'est ça mes traumatismes. Tu sais, c'est quoi mes traumatismes?
C'est la présence.
Regardez, il y a 2 shows disponibles. L'heure à Jacob, l'heure à Émile. Tu veux-tu entendre parler de la guerre au Liban ou de la fois qu'il s'est été oublié au théâtre, là?
Ou si vous voulez, elle a un bon bit sur l'antisémitisme avec Dieudonné. Chacun leur goût. C'est pas vrai. Est-ce que toi, t'as vécu des traumatismes? Parce que c'est ça, tu viens d'une belle famille, mais comme t'as-tu vécu des affaires que t'es comme « Ah, ça m'a marqué, puis c'était pas si grave que ça? »
Tu veux te faire élire. Tu travailles fort.
Exact.
Tu convaincs la population que t'es le premier choix.
T'es l'élu.
T'es l'élu du ciel, de la terre et de la sous-terre. Par contre...
Qu'est-ce qui arrive quand il y a quelque chose de parfait?
On réalise que c'est pas parfait.
Ah ouais, comment ça?
T'arrives à un certain point, okay. Tu réalises que la majorité de la population... et pas en train de croire ce que t'es en train de dire.
C'est-tu parce que t'as comme un passé un peu louche?
Non, au contraire, t'étais clean.
Ah ouais?
Mais tu réalises que pour te faire élire sur papier et que ce soit toi qui sois sur le trône...
Faut que t'aies quelque chose de wrong.
On a besoin de quelques petites enveloppes brunes.
Il y a juste un petit excès de vitesse.
T'as besoin de quelques petites actions qui font en sorte que tu t'associes avec les mauvaises personnes pour qu'eux motivent les gens pour voter pour toi.
T'as comme pété la balloune, mais comme... C'est pas un ballon de piñata.
Le message est bon, mais le messager s'associe avec des gens légalement parlant. Oopsie daisies. 4 ans au pouvoir. 4 ans moins un jour, on réalise oopsie daisies. La personne au pouvoir, elle est pas si clean qu'on pensait. Tu te fais poursuivre. On te cote sale. T'as fait de la fraude. T'as laissé des gens rentrer des produits qu'ils devaient pas remplir. Et en passant, on l'associe à toi. C'est
oui,
toi qui est fautif.
C'est fini, c'est toi. Même si toi, tu le savais pas, c'est toi. Parce que ta face, elle est partout.
Partout.
Qu'est-ce que tu fais? Qui t'appelle?
Au début, t'appelles ta mère.
Oui.
Puis là, ta mère te dit, je peux pas t'aider, j'ai tout le temps su que t'étais un sale. Pourquoi j'ai voté pour toi? Puis elle te raccroche.
T'appelles qui d'autre après?
T'appelles ta blonde.
Qu'est-ce qu'elle fait?
Ta blonde te dit, j'ai déjà fait les valises, les enfants, je les ai pris avec moi. On s'en va en Suisse parce que c'est là que toutes tes fucking banques, tous tes paradis fiscaux sont là.
Puis je t'ai trompé avec ton cousin. Puis qui t'appelle après? Troisième personne.
La troisième personne, c'est la personne qui va te remonter.
C'est la personne qui va te faire réaliser que t'avais pas besoin de ta femme puis tes enfants.
Puis cette personne-là, tu l'appelles jamais par ce nom-là. Non. Mais cette fois-ci, parce que t'es dans la merde, tu l'appelles et il va dire « allô ». Et tu vas pas dire « allô », tu vas dire
« maître
Andrew
Nader,
j'ai besoin de toi ».
Maître Andrew Nader est le seul être humain sur la planète qui va te sortir du trouble d'un point de vue criminel.
100%.
Si toi, t'as un petit peu de criminel, t'as besoin de contacter le spécialiste en droit criminel.
100%.
Et ce gars-là, c'est pas un criminel.
Non.
C'est le contraire d'un criminel.
C'est un professionnel.
C'est un maître.
Oui.
Maître Andrew Nader, spécialiste dans le domaine du droit criminel, excès de vitesse, vol qualifié.
Fraude au Toys R Us.
Fraude.
Jaywalking, t'as traversé la rue.
Oui. Excès de vitesse, c'est Maître Andrew
Nader. Gangstérisme.
Si vous êtes dans le trouble avec la loi,
oui.
Le seul qui peut être là pour toi,
Maître Andrew Nader.
En chaîne et en or, c'est Maître Andrew Nader.
Tu sais c'est qui va te voir en prison? C'est pas ta famille.
C'est Maître Andrew Nader.
C'est Maître Andrew Nader.
Toutes ces informations sont dans la description. Arrêtez de perdre votre temps si vous êtes en train... Si t'es dans un fist fight maintenant avec la police, appelle Maître Andrew Nader. Courriel, numéro de téléphone dans la description sur YouTube ou sur Spotify, Apple Music, blablabla. Et pour ce qui est du reste de l'épisode...
Enjoy the show.
Ouais, mais je pense que j'ai vécu un genre d'abandon émotif. Puis ça vient, comme tu parlais de ta mère, que trois jobs. Ma mère était docteur, puis mon père aussi travaillait beaucoup.
Big business.
Puis
mes enfants, qu'est-ce que faisait ton
père? Mon père, il travaillait en ressources humaines longtemps, puis en administration au Collège Notre-Dame, en face de l'Oratoire Saint-Joseph. Puis je pense que c'est juste que mes parents avaient une vision que les enfants vont s'élever entre eux. Tu sais, comme le plus vieux va s'occuper de l'autre, puis l'autre va s'occuper de l'autre. Puis honnêtement, ça marchait, puis à cause de ça, on est soudés. Mais je peux même pas te dire un moment, mais je sais que moi, j'ai un affaire avec l'abandon à cause de ça dans la vie. Là. Même, mettons que dans notre amitié, Jacob, t'es moins into it. Là,
ouais.
Je vais comme tirer à la plug moi-même
pour pas que
tu me rejettes.
C'est ça,
dans notre amitié, mais tu me rejettes jamais. Là.
Non, jamais.
Moi puis toi, on est bro. Là.
Oh, oui, vraiment.
Mais, moi, je remarque que ça a laissé une trace, ça, mais comme je te dis, il y a tellement pas de choses graves qui m'est arrivées.
Ouais.
Que je suis plus axée sur les autres dans la vie. Okay. Puis,
combien de frères et sœurs?
On est quatre en tout. Fait que j'ai un frère puis deux sœurs. Mais à cause de ça, comme je te dis, ça nous a soudés les enfants parce que quand les parents n'étaient pas là, justement, on était comme une petite meute de loups. Là,
comment s'appelle le livre où est-ce qu'ils sont? C'est tout des kids sur une île, pas Of Mice and Men.
Stranger Things?
Non, c'est un livre anglais, putain de merde. Le
nom est sur une île?
C'est tout des enfants sur une île, puis là, ils commencent à créer des groupes. Puis là,
je sais de quoi tu parles, mais c'est juste à cause que j'ai vu l'épisode des Simpsons. Genre, comme...
Ok, mais oui, il y a un épisode des Simpsons.
Tous mes référents dans la vie, je suis comme, ah, je sais pas de quoi tu parles, mais je l'ai vu dans les Simpsons.
Je l'ai vu en jaune avec des cheveux bleus. Je l'ai vu.
Puis souvent, je pense que c'est ça l'original, mais au fond, c'est clairement une parodie de quelque chose d'autre.
Est-ce que tu sens que vous étiez. Il y a quel âge? Vous avez combien d'années de différence entre chaque?
Deux ans entre chaque, sauf ma petite sœur, il y a 4 ans.
Qui est quand même relativement proche. Est-ce que vous vous démerdiez entre vous?
Ouais, exact.
Est-ce que vos parents étaient autoritaires?
Oui, mais il était comme pas là. Mais mon père, il a une forte autorité. Mon père, là, il élève des chiens. Là. Genre, il est dominant comme personne. Regarde le chien. Là.
Yo, Michel, ses cuisses se sont écartées. Il a fait comme, yo, mon père.
Non, mais genre, il regarde le chien. Il y a un des chiens qui avait regardé, puis il s'est couché sur le côté, puis le chien s'est pissé dessus. Mais genre, mon père l'avait juste regardé. Là. Mon père, il avait comme une domination. Il est comme alpha dans son truc. Fait
c'est pas typique de quelqu'un en ressources humaines, ça, par contre.
Non,
d'habitude, ils sont un peu faibles, un peu fragiles.
Mais on dirait qu'il est juste comme ça. Puis je sais pas si j'avais du respect pour mon père ou de la peur. Moi, j'avais peur de mes oncles. Je sais pas si avez-vous un mononcle qui faisait peur. Moi, j'avais un oncle, là, il faisait comme un prank d'hiver, OK? C'était comme, il te sacrait la face dans la neige, puis il te remplissait le capuchon de neige. Puis là, c'était ça, c'était la joke, genre. Là, avec comme
c'est la joke! J'ai eu le punch! Autre que dans mes côtes!
Je sais pas si vous autres, ça relate à avoir moi, peur.
Père, mon
un
père,
peu.
Tu l'as bien senti. Moi,
ça, c'est violent.
J'étais jamais sûr si j'avais peur ou je respectais
c'est
mon père.
Parce qu'un bon prof, mettons ouais. en vie, tu le respectes parce qu'il est bon. Puis ouais. un mauvais prof, il a juste la peur pour te faire parce comme l'écouter.
Tu sais qu'il va péter une coche. Moi, j'avais une maison que Tony, lui, il me faisait peur. Mais tu sais, c'est comme c'est le gars qui a vécu la guerre, qui a, des il a fait tellement d'affaires fuckées dans la guerre. Il y a une cicatrice toute dans son bras.
Oh, ouais.
Quand t'es jeune,
il y a un perroquet sur l'épaule.
Puis il faisait il disait Argyle. Mais man, juste il pognait même des fois il bardassait ma mère, c'est comme il était ouais. tellement un PTSD qui était tellement violent que quand on le voyait, on lui disait allô mais comme vraiment de loin puis quand il s'approchait à nous, on essayait de reculer mais maintenant on pognait le mur puis il était comme Rosla puis t'es comme
hey, oui, puis là, faut que tu l'embrasses, bonne année mon oncle Tony.
Ah, mais il pogne par le cou et il te lève contre le mur comme bonne année à toi.
Ah ouais, puis c'était un oncle comme il mettait tout le temps du déo mais il prenait pas de douche. Fait qu'il sentait genre le Old Spice, mais travaillait fort.
Old Spice.
Fait qu'il était comme fucking... Je sais pas, il était... Oui, c'est
il
lui qui
me fait
peur,
mais en même temps, je turn on les deux.
Il me fait peur, mais je suis un peu... Hein?
Ouais, ouais, il y avait un petit côté quand il prenait, je disais... Ah,
Tony!
Parce que là, surtout quand il y a plusieurs enfants, parce que nous, c'était la même chose, on devait se démerder entre nous pour pas que l'information arrive à nos parents. Parce qu'une fois que l'information arrivait aux parents, c'était fini.
Ça
là,
prend
c'était,
une solidarité.
C'était
là,
une tornade.
De,
là,
c'est tout, tu fermes ta gueule avec
est-ce
ça.
Que vous étiez... Parce que nous, ce qui arrivait, c'est que moi puis mon grand frère, on était fucking tight.
Ouais.
Mon plus petit frère, on le démerdait.
C'était un snitch ou...
Il était quand même un peu un snitch.
Tony était snitch?
Ouais, parce que moi puis mon grand frère, on se battait dans le sous-sol quand il y avait de la visite au milieu.
Nous aussi, on
mais
mettait
en
une
silence.
Couverte, on faisait de la lutte. Là. On avait une couverte de lutte. Là. C'est comme notre ring.
C'est pas comme des luchadores.
Brune, là. Mon frère me donnait à voler. Il faisait sa job de frère.
Sauf frère plus vieux, toi.
Ouais. Frère plus vieux, sœur plus vieille, moi, ma petite sœur.
Soit un gars, trois ouais. filles, puis le gars, c'est le plus vieux. Okay.
Mais mon frère, man, genre, mon seul move, c'est qu'il m'accotait dans le mur, puis je donnais des coups de coude par en arrière, genre, puis il me lâche. Mais toi aussi, tu te battais dans le sous-sol?
Non, on se battait dans le sous-sol, puis quand il y avait de la visite au milieu, on se battait en silence pour pas que mon père entende qu'on se bat. So,
ça,
comme t'entendais
c'est
juste
gay,
des.
C'est gay.
Ça va? Tu sais à quel point ils veulent pas être gays? Ils sont comme, yo, on va se battre, mais faut pas faire de bruit.
Non, mais parce qu'on voulait pas. Si mon père entendait, on se faisait casser la gueule.
T'entendais juste.
Ta gueule, snitch.
Ça va, Pornhub?
Yo, c'est vous, pédo Pornhub?
On se battait, mais comme en silence, comme des ninjas. Parce que si mon père entendait, il descendait puis il nous cassait la gueule aux deux. Parce qu'on pouvait pas se battre. On n'était pas supposé se battre. On est supposé se protéger entre nous, puis on n'est pas supposé se battre.
Puis la main de son père, c'est...
c'est la porte.
C'est la guitare. C'est juste... Non, non, il y a des immenses...
C'est drôle que vous teniez à vous battre, mais la conséquence de se battre, c'est se faire battre. T'sais, c'est comme...
c'est juste tout le monde se faisait casser la gueule, mais...
Et à la fin, vous regardez tout battu au souper, vous êtes comme... Hein?
Mais tu vois, mon petit frère, c'était ça, criait au meurtre. Criait, il se pitchait par terre, puis lui, il avait pas peur des conséquences parce que lui, il s'est fait tellement casser la gueule que sa peau était devenue une plateforme protectrice. Là. C'est rendu comme le truc dans Black Panther. Quand
il y avait,
ouais.
avait de la corne.
Il y avait de la corne.
Mais le pire, c'est que son frère, il, aujourd'hui, il est immense. Il est 6 pieds, il est fucking beef.
Ah oh ouais, le petit? Le
ouais.
snitch.
Je peux pas dire que c'est lui qui faisait sa petite bitch.
Ouais, ouais, il était vraiment. C'est pas que sa bitch, c'est un anarchiste. Il s'en calissait. Lui, il voulait voir la maison brûler.
Ah oh, ouais.
Il y avait aucune perception des conséquences parce que mes parents commençaient à devenir plus vieux. So, ils étaient juste fucking tannés d'avoir des enfants.
Le dernier, souvent,
c'est ça que j'allais dire.
Les plus lourds, des fois.
Fait que la dernière, étais-tu un peu plus délaissée dans votre gang?
Ma petite sœur.
Ouais, la plus petite.
Ouais, elle a eu comme une autre sorte d'éducation. C'est comme plus lousse, moins axée sur la performance. Puis vers la fin, nous, on a toutes déménagé. Fait qu'elle, elle s'est sentie plus toute seule là-dedans. Moi, j'ai déménagé chez ma mère juste un petit peu avant que j'aie 16 ans. Fait que mon frère était déjà parti, ma sœur était partie. Fait que ma petite sœur, elle a eu un petit moment toute seule avec mes parents. Fait qu'elle a une meilleure connexion. Justement, il y a moins ce côté-là là, d'avoir peur. T'sais, c'est comme si sa mère, c'est son amie plus dans la vibe. Puis s'est fait donner des... T'sais, elle s'est fait passer des autos. T'sais, elle a eu plus un petit côté de ce qui vient avec être la petite dernière. Mais il y a plein de négatifs aussi avec ça. T'sais, des
oui,
fois, tu ne t'en pas considéré. Ou tout ça. Mais souvent, je trouve que vieillir puis maturer, c'est comme... comprendre pourquoi tes parents étaient de même. Parce que quand t'es jeune, 100%. Tu fais juste comme, ah, elle n'est pas venue me chercher au théâtre. Mais après ça, avec le recul, tu fais, ah, elle avait trop de jobs. Moi, des fois, là, je réévalue ma vie. Puis je suis comme, ah, oh, ma mère était stressée parce que elle était monoparentale avec 4 enfants. Puis là, on criait dans le char. Puis là, elle nous envoyait chier. Puis je me dis, dans le fond, tu comprends mieux tes parents vieillissant. Puis là, tu fais, ah, oh, c'est pour ça. Mon oncle Tony était allé à la guerre. Puis là, tu fais, ah, oh, c'est ça le bagage de ces gens-là. Est-ce que ça le justifie tout le temps? Non. Mais souvent, je trouve qu'en maturant, je suis comme, ah, oh, c'est pour ça que mes parents étaient là. Mon père était tout le temps, il venait fâché comme vers 5 heures du soir. Puis j'ai réalisé qu'il avait juste faim. Genre, pendant 10 ans, il avait faim en revenant de la job, genre. Puis c'était la seule raison de son mot.
Lui, il était comme, tabarnak, ma bonne femme peut pas faire manger parce qu'elle sauve des vies, la calice de docteur, tabarnak.
J'avais dû marier le médecin, elle voulait être soumise.
Vous pouvez pas marier tant qu'elle soit une calice de cuisinière à la place de quelqu'un qui fait des centaines de milliers d'années puis qui fait en sorte que l'économie du Québec va bien, tabarnak.
Il a juste enlevé son t-shirt, commence à se battre avec un German Shepherd juste pour faire.
Non, il fait juste l'armée de vidéo quand t'en parles, battez-vous, bande de chiens. Dogfight.
C'est pour ça qu'il se battait avec des chiens. Mais tu sais, c'est que...
parce qu'il avait une autorité sur quelqu'un, au moins. Ouais. Il y a une personne qui m'écoute, puis c'est fucking rough, ouais. Ou peu importe c'est quoi.
Mais ça, c'est fou. Il y a du monde qui sont comme à mon enfance. Ça aurait été que mon père boit pas d'alcool, ou tu sais, moi, ça aurait été la fois que la maison a brûlé. Moi, c'est juste comme une barre tendre aurait tout changé.
Mes parents seraient encore ensemble.
On est à une barre tendre.
S'il y avait un steak.
Oh, Henry. Moi, je pense que aussi, tu sais, qu'est-ce qui se passe aussi, c'est que je pense qu'il y a des gens qui vivent des traumatismes et qui veulent que ça, leurs parents soient plus ça parce qu'ils veulent montrer que, genre, si t'avais changé, si t'étais mieux, t'aurais eu plus de fun. Comme, je donne un exemple, comme moi, j'ai été longtemps fâché que mon père n'a pas été trop présent dans ma vie quand j'étais jeune, mais aujourd'hui, je réalise que je suis fâché parce que. Je voulais dire à mon père, comme, yo, c'est le fun prendre soin de ses enfants. Comme j'ai des kids, puis je peux plus me passer de ça. C'est trop fucking. Oui, je perds la tête des fois, mais je veux dire à mon père, comme, moi, si je suis fâché avec toi toutes ces années-là, puis aujourd'hui que j'ai comme un peu plus une paix, c'est que je voulais juste te dire, yo, c'est le fun, bro.
Ça peut être le fun.
T'as manqué de quoi, bro? C'est fucking cool.
Les parents nous disent ça des fois, ils sont comme, quand tu vas être adulte, tu vas comprendre pourquoi tout est triste. Puis là, t'es comme, hey, c'est bien dommage comme façon de penser. Comme toute ma vie, t'attends de me prouver que t'as raison. C'est beau que t'as trouvé comme le plaisir dans la paternité. Mais toi, t'es une boule d'énergie aussi, là. Ben, pas la recette, là, mais genre, comme personne, tu sais. Ça t'aide-tu à être un bon père, ça? Tu le fait que t'es tout le temps sur le piton?
Ben, c'est parce que là, le piton.
Ta fille est comme, papa, débuzz.
Ben, c'est que ma fille est de même. C'est juste que moi, je sens que là, j'ai 30 ans, mais je sens que le piton, il commence à être fatigué. Là.
Ouais.
Ouais, je dois dormir, là.
Tu vieillis un peu.
Je vieillis, là, que tu le veux ou non. Mais je veux rien retourner une affaire. Toi, t'es parti de chez vous à l'âge de 15 ans.
Ouais,
tes parents, ils étaient pas fâchés?
Non, ils étaient pas fâchés. Ma mère, elle avait comme une petite lampe, puis elle a dit, ah, oh, c'est le vent. puis j'accrois, là. non, je pense que pour eux, ça marchait. Moi, j'avais comme un désir vraiment de m'affranchir, puis j'avais un désir de me réinventer. Puis quand je suis arrivée au cégep, la première pratique d'impro, puis pof de weed que j'ai pris, là, je me suis détendue. Ouais. Puis là, j'ai réalisé que toute ma vie, j'étais sur le nerf, tu sais. Toute ma vie, j'étais en mode survie. Mais tu sais pas, parce que ton normal, c'est ton normal, tu sais.
100%.
Puis quand tu rencontres d'autres gens, tu sais, c'est normal au cégep de voir comment le monde est plus grand que je pensais. Puis j'ai réalisé que mon normal, c'était la survie. Puis je sais pas, ça vient d'où. Ça peut être le côté performance chez nous, ça peut être le côté explosif, ça peut être les chicanes qui m'ont... Tant comme, moi, si tu te mets à t'énerver, là... Même si on a du fun, là, même temps que tu sacres puis c'est contre moi, là, moi je vais venir sur le stress, je vais comme je prends mes clés, je m'en vais d'ici, tu sais. Je suis super sensible à ça. Fait que on dirait ça, je pensais que c'était toute la vie normale de tout le monde. Puis après ça, j'ai eu comme un genre de ah, OK, mon normal, il est weird dans le fond. Puis là, j'ai trouvé un peu la vérité entre les deux. Fait que j'étais un mélange de quelqu'un de stressé puis axé sur la performance, mais aussi comme un genre de stoner, de potchkane.
Je pense qu'on a eu vraiment quelque chose de similaire dans la manière dont on a grandi parce que c'était la même chose. Mais moi, c'est juste que j'ai pas eu le courage de déménager jusqu'à il y a 3 mois. La seconde que j'ai,
c'est ça.
Même réalité, mais
Émile est 48. Ça y a pris du courage en tabarnak. Ça y a pris du temps. Lui a vraiment remédié. Toi, t'as. Yo, à 15 ans.
À 15 ans, parce que c'est fou quand même. Moi, je suis arrivé, puis c'est maintenant que je me réveille. Je suis comme, ah, je peux. J'ai le droit d'être relax, comme je peux rentrer à la maison chill, de comme tout est chill. Mais à 15 ans, comme tes parents sont juste comme... Mais t'as commencé à travailler, t'as ben, tu payais ton loyer.
C'est 15 parce que j'ai fait ma maternelle à 4 ans. Brag.
What?
Donc, c'était à 16 ans que je rentrais au cégep. Donc, c'est comme... Oh, fuck, c'est okay. L'entrée au cégep. Puis moi, je voulais pas faire le voyagement de Châteauguay en autobus jusqu'au Vieux-Montréal. Tu sais, genre...
T'es chargé,
j'ai jamais aimé commute, là. Je veux jamais passer 6 heures de ma journée sur la route. Moi, ça me rejoint moyen, là.
Okay. C'est tellement du temps mort.
Ouais, non, c'est ça. T'es dans le métro. Ouais. D'ailleurs, la première fois que j'ai pas fait du witch, dans le métro, là, tu sais, t'es le banc qui recule. T'es comme... On va voyager dans le temps, là.
Ça va back to the future?
Ouais, ben, je pense que j'ai fait comme 2-3 jours cégep à faire ce voyagement-là. Puis j'étais comme, ben non, moi, ça me parle pas, cette idée-là. Puis là, j'ai commencé à j'ai trouvé un appart. Puis, okay. Puis honnêtement, le fait que... Ce qui m'a permis de le faire, c'est que mes deux parents, dans leur divorce, il y avait comme une entente que moi, je recevais une pension alimentaire de mes deux parents. Donc, j'avais c'est comme ce pouvoir-là d'aller me chercher un appart.
C'est
malade, j'adore.
C'est fou, hein, quand même. Là.
Puis, t'avais 16 ans, t'étais déjà autonome. Ouais. Tu faisais de l'épicerie, tu cuisinais?
Ouais, mais je suis pas une bonne cuisineuse, mais oui, je faisais tous mes trucs, que... puis j'habitais même seule, j'avais même pas de coloc dans mon premier appart. Mais je travaillais au Rossi temps plein.
Ça, c'est triste.
Pendant la grève étudiante, c'est la grève étudiante quand j'étais au cégep, okay. Moi, fait que, tu sais, il y a comme pas de cours, j'étais dans les raves.
T'étais déjà une mère monoparentale, fucking Walter
White. Tu fumais des clopes avec Nadeau Dubois, bro, pendant la fucking, oh shit, quand même.
Fait qu'il y avait vraiment un moment de me découvrir, puis j'aimais la danse, l'impro, apprendre à connaître les gens. Là, ça a été comme une libération pour moi, puis...
T'as pas eu peur d'être seul dans l'appart, genre, comme... C'est quand même... Parce que moi, à l'âge de 15 ans, je découvrais ma sexualité, je commençais à avoir mon périmètre, je faisais comme, OK, ça, c'est chez nous, on peut aller plus loin, tu sais, comme...
Ouais.
J'étais très... J'étais comme, OK, on dirait que moi, ma vie, comment ça marche, c'est plus que t'es occupé, puis que tu réfléchis moins... Tout va bien aller. Quand je suis parti en appartement, j'ai fait ah.
T'as pas le vide, le silence.
Oh my god, le vide, ça me faisait tellement peur là. Fait que c'est pour ça que je me dis à 15 ans, t'as pas eu peur d'être seul?
Non, j'aimais pas tant ce quartier-là. J'étais comme métro Cadillac là. Ouais. Puis c'est comme le un peu sombre là. L'est.
C'est le ghetto.
Ouais, je sais pas comment le dire. Sombre, il y a
c'est le Patrick Sénégal des pauvres. C'est le Patrick Sénégal des pauvres.
Ouais, c'est ça. Fait que il y a des petits moments au niveau de la sécurité, mais en tant que au niveau de la
des petits moments des breaches de sécurité, il y avait des fusillades au bas de l'appartement comme pas ça. Trop peur.
Mais en tant que tel, j'aime beaucoup la solitude. Moi, je suis une personne qui est sociale malgré moi. Ouais. Genre à cause de l'impro puis de l'humour, je suis quand même très sociale. Oui. Je fais des belles connexions. Après ça, il faut que je rentre chez nous être seule puis recharger ma batterie de ouais. Mon Dieu, j'ai parlé. Moi, des fois je vais à un show là, puis juste le lift, jaser 3 heures, j'ai plus d'énergie pour le show. J'ai tout donné dans notre discussion d'auto.
T'arrives sur scène, t'es comme, regarde, j'ai enregistré ce qui s'est passé dans l'auto. Je vais le mettre pendant 15 minutes, c'est mon set.
Là-dedans, j'avais de l'énergie. Exact. Tout, genre. Mais c'est fou. Puis moi, j'aime le monde, puis j'aime ça apprendre à connaître le monde, mais ça me prend mon énergie. Genre. C'est dur à expliquer ça quand t'es artiste. Je suis obligée d'expliquer à mon producteur que je veux pas que la personne qui me fait un lift me parle. Mais tu veux pas que ça. Imagine, ça dégénère. Il y a une rumeur sur toi. Je le dérocher, faut pas la regarder dans les yeux. Genre. Tu veux pas que ça dérape.
T'es juste assis seul chez moi en culotte. Là, c'est tout ce que je veux faire.
C'est ça. Mais oui, j'ai un aspect que j'aime la solitude. Okay. Je l'ai eu un petit peu plus rough, on s'en est parlé souvent après ma rupture.
Ouais.
Là, il fallait que j'aie un fond de podcast là, qui occupe mon vide intérieur. Là.
Exact, ouais.
ça fait comme une voix. Mais sinon, c'est vrai que j'aime ça passer du temps seul. Moi, je suis fou du self-care, tu me connais. Masque ouais, de beauté, des bains, ouais. la course, il y a quelque chose d'individuel là-dedans. Là.
J'avais une question, c'est nice que tu mentionnes la course. Tu viens de faire un marathon, un demi-marathon?
Un demi, ouais, 21 km.
C'est quoi ton problème?
Tu fuis de quoi?
C'est quoi? Moi, c'est mon rêve en passant.
Ah oui?
Avoir des souliers de course, être comme I'm going for my morning run, comme mettre mes souliers de course, courir, puis rentrer, puis juste courir. J'ai envie de courir, je sais pas où.
Ok, c'est ton rêve.
C'est mon rêve de courir.
Mais tu t'aides parce qu'on dirait que tu veux que je t'achète des running.
Non, mais c'est comme je vais m'acheter des running, je vais courir 37 secondes, puis il y aura une douleur perçante qui va passer de ma gorge jusqu'à mon trou de cul.
Qui est tout le même trou, d'ailleurs.
Pourquoi tu cours?
pourquoi je cours? Je commençais à mettre le doigt là-dessus il y a un bout, là, puis je lisais des trucs comme quoi il y a beaucoup de coureurs de longue distance qui sont aussi des dépressifs, tu sais, puis ça va un peu ensemble. Puis okay. C'est une idée de contrôle. Puis ça va peut-être vous parler parce que dans le métier qu'on fait, il y a ça aussi. Tu sais, je parlais de, tu sais, mettons, savoir qui me fait un livre puis qu'est-ce qu'il va se dire, mais on fait un métier où on aime contrôler. Puis on cherche des moments de contrôle puis pas de contrôle. Au sens, le public, là, tu contrôles pas ce qu'il va te faire. Fait que des fois, t'aimes ça, pas savoir ce qu'ils vont te donner. Puis il y a des gens qui aiment énormément le contrôle dans la vie puis qui aiment le contraire. C'est pour ça qu'il y a des PDG qui aiment se faire pisser dans la gueule. C'est parce que...
C'est normal.
C'est comme t'aimes les extrêmes. Puis dans la course, t'as un pacte avec toi-même. Tu te dis, ça va faire mal aujourd'hui, ouais, mais c'est mon choix. Et c'est ça que je cherche dans la course. C'est de s'imposer un défi... qui va être juste c'est juste un peu trop 21,1 km. T'sais, 15 km, c'est pas assez long, mais 21,1, à un moment donné, un bout, tu fais « Ah, ici, c'est long », tu sais. Puis c'est ça que j'aime, aller me chercher, me dépasser aussi. Puis moi, je suis comme activiste malgré moi, parce que je suis une femme ronde dans l'œil public, tu sais.
Je n'ai pas exprès, tu veux juste courir.
C'est ça. Ben, c'est le monde t'attribue. Le monde, sont comme, mon Dieu, elle le fait pour combattre la grossophobie. Non, je le fais parce que je cours, mais c'est...
Elle fait ça en mangeant des O'Henry. Des smoothies au Nutella.
Mais tu sais, c'est comme... Il y a plein de gens qui, c'est comme, malgré eux, selon leur casting, ils vont se faire... C'est comme si tu vas quelque part puis je te dis, ouais, c'est le fun, la diversité. Puis t'es comme, ma colise de la diversité.
Juste être au Walmart. J'ai pas le droit d'être au Walmart.
C'est ça, je vais juste chiller, là. Tu sais, ça donne que je suis dans le show. La même chose avec moi, c'est comme... La course, pour moi, c'est une passion depuis toujours. Puis sinon, ça a été la marche. Puis honnêtement, je marchais de chez mon père à chez ma mère pendant le divorce. Quand il y a une chicane dans une des deux maisons, je marchais jusqu'à l'autre. Puis là, je marchais jusqu'à l'autre. Puis
je commençais à courir. Puis là, ça prend moins de temps. C'est puis ça. Là, c'est...
Mais quand je la liftais, elle faisait.
Je préfère courir jusqu'à Québec. Elle faisait juste courir.
Elle habitait quand même pas loin, mais quand même loin de chez moi. Puis elle me disait, les premières fois, elle me disait, comme, c'est où encore que tu habites? Je disais, là, je m'en viens de chercher. Comme, non, je m'en viens. Là, je fais comme, OK? Comme, tu vas-tu prendre un. Prends pas un bus, là, je peux venir te chercher. Comme, non, je m'en viens. Elle revenait, elle avait couru, bro. Ouais. Avec son sac, bro. Elle était toute rouge, puis elle était comme, let's go, on y va. Puis je comme, on a un show, comme, t'es pas fatigué, mais non. T'as couru genre 20 minutes, t'es correct, ça va.
Elle arrive, moi, je cours 5 minutes, c'est vraiment ma semaine est ruinée, ouais, là, comme ça.
Lui, il monte les escaliers ici, puis il fait comme, pourquoi on fait un podcast? J'ai envie de prendre une sieste.
On dirait que c'est l'acte répétitif. J'aime me faire mal. Je suis quelqu'un qui aime se blesser, comme, je suis quelqu'un qui aime se fouetter, puis je sais. Est-ce que. Tu appliques ça à d'autres phases de ta vie, la douleur que tu t'infliges dans la course, est-ce que tu travailles comme ça? Est-ce que dans tes relations, c'est comme ça? Dans ta vie sexuelle, est-ce que genre c'est comme quelque chose que tu fais constamment, te faire mal, ça te permet d'avancer?
Oui, ben tu sais, on en parlait tantôt, dans le rodage, il y a de ça, il y a des hauts et des bas, tu sais, on en passe de « mon Dieu, je suis le king » à « mon Dieu, c'est malaisant, qu'est-ce que je suis en train de faire? » Puis ça, je suis un peu accro à ça, là, le « up and down ». Je pense que rentrer fort en humour, ça t'amène à travailler parce que tu dis « ah, c'est bon, on continue », puis quand tu te plantes, ça t'amène à travailler, fait que comme tout ça est positif, ouais, là. Puis, si tu ramènes ça à la sexualité, j'aime pas ça me faire sacrer une volée nécessairement, mais...
ça va, Floyd Mayweather?
Nécessairement.
Est un mot-clé, mais là-dedans, il y a de ça le contrôle, non-contrôle qu'on parlait, là, tu sais, de dire, moi, je suis une personne qui va apparaître, tu vois, on m'a déjà fait des commentaires, là, de, toi, là, t'as l'air quelque chose au lit, ou, tu sais, genre, t'as l'air... J'ai pas...
On est devant le bus, bro.
Elle pense activer. Yo, tu veux te faire péter les côtes?
Ben, on dirait comme... Puis on m'a fait les deux extrêmes. Genre, toi, t'as l'air d'une Sainte-Nitouche, puis d'autres personnes, toi, t'as l'air dominante. Donc, je dégage un peu comme un mélange des deux, puis ça me fait rire, puis je l'utilise sur scène, beaucoup.
Ça,
là,
c'est des gens qui rêvent de te baiser, en passant.
Oui.
C'est des gens qui rêvent de coucher avec toi, puis ils sont comme, tu sais quoi, c'est 50-50, je vais essayer, je veux juste être dans son lit. Je veux juste cuddle.
OK, dilemme moral, Jacob. Vas-y. Imagine, il y a un petit enfant malade, là.
Oui.
Une petite Sonia, tu sais, à comme 7-8 ans.
Oui.
Puis son rêve d'enfant, c'est qu'elle veut te sauter. Hein? Là, t'es pognée, là. Hein?
Attends, son rêve d'enfant, c'est qu'elle doit me sauter?
Ouais, ben elle, mettons, c'est l'organisme rêve d'enfant. Okay. Là, quand t'as le cancer, il donne un cadeau. Et là, le dilemme moral, c'est qu'elle, c'est vraiment ça qu'elle veut comme cadeau, mais tu sais, il y a tout le côté illégal, là, tu sais. Ouais.
Moral.
Moral.
Surtout le moral. L'illégal, c'est des messieurs qui ont dit, des madames. C'est plus le moral que moi pour le restant de mes jours. Sonia, je l'ai déglinguée.
Mais si
impossible.
Si le rêve de Sonia, c'est de te déglinguer, est-ce que là, c'est moins pire?
Ça rend ça très acceptable.
Est-ce que là, c'est moins pire?
fucking merde, bro, je suis pas... Je pense que, tu sais, c'est quoi que je vais faire? Je vais dire comme, avant qu'on passe à l'acte, je veux que...
La police attend à la porte. Fais juste pas répondre à la question.
Je veux que pendant
t'es
une
pas
semaine...
obligé de répondre.
Oui, je suis obligé de répondre. Elle a un gun en dessous, tu le vois pas? Mais yo,
il est dans son
pêche. Tu penses que c'est son clitoris, mais c'est un 9 mm qui est juste fucking glotte, qui est là,
c'est
bro.
C'est quoi le problème?
Moi, je vais dire, regarde, on va chiller pendant une semaine, puis je vais te montrer... que je suis une merde, que t'as
okay,
pas envie...
tu vas la débosser de
oui.
son désir. Ah, c'est
oui, vraiment
noble.
Tu vas briser le cœur de Sonia pour être capable...
Je vais juste être une mauvaise personne.
Ouais.
Je vais faire mon possible pour être en prison.
Puis si j'ai son fétiche,
je vais dire le N-word partout. Je vais être antisémite. Je vais commencer à battre des femmes enceintes juste pour que j'aille en prison. Juste pour que je fasse pas ça. Puis là, Sonia, she's gonna be dead.
Sonia va ouais, être cured.
Je trouve ça vraiment... Non, je trouve ça... C'est l'affaire la plus weird. En plus, j'ai des enfants.
Ben, tu passes le test. Écoute, c'est comme Emile dit, on était à To Catch a Predator. You got Chris it, Hansen. Bro. C'est ça. Emile, c'est pas Emile, c'est la police.
Ça fait deux ans.
Moi, je suis Emile.
T'as sorti un fucking bon point. Est-ce que...
La pédophilie?
Ouais, la pédophilie. Non, mais t'as parlé, tu cours parce que t'aimes courir, puis là, le monde, c'est comme, ah, ouais, oui, on combat la grossophobie.
Ouais.
Est-ce que ça te fait chier parce que surtout, t'es une femme dans l'humour? Est-ce que ça te fait chier d'être...
Tu l'as dit comme...
Mais ça me fait tellement chier, ce genre de phrase-là. Mais t'es souvent, comme par ton casting, t'es souvent activiste malgré toi.
Ouais.
Est-ce que tu t'es consciente de ça? Puis à quel point ça te fait chier?
Ça me fait chier beaucoup. Puis honnêtement, ça me fait chier souvent quand que dans l'actualité, tu sais, quand on a vécu genre le Me Too,
ouais.
Où là, il y a beaucoup de questions récemment de liberté d'expression. Changé. C'est qu'on en jase, puis... Avec bien du monde, j'ai des belles conversations, mais avec d'autres mondes, je le sens qu'on va jamais trouver un terrain d'entente. Puis là, il y a comme un fret à cause de ça. Puis des fois, c'est du monde qui assume ce que je pense. Là. Tu sais, donc, comme au bordel dans la loge, là, t'es avec trois humoristes que je sais, mettons, qui sont à droite. Tu sais.
Ouais.
Puis les humoristes qui sont à droite ne sont pas à droite nécessairement parce qu'ils sont méchants. Là. La majorité sont riches, ils veulent garder leurs sous,
ouais.
Puis ils sont d'une autre génération.
Du monde... J'ai tellement hâte d'être à droite, sincèrement.
Ah, c'est ça, j'ai
hâte. Là, je suis centre de gauche, parce que j'ai pas le choix.
Je te le souhaite, c'est ça, exactement. fait que j'ai l'impression que des fois, ça a comme brime des relations quand ça n'a pas lieu d'être. L'humour, c'est l'humour. J'adore l'humour politique, puis je suis content que les autres le fassent, mais
oui.
Moi, je fais un humour qui n'est pas très politique. Je fais un humour qui est assez personnel, puis soit le politique est caché, puis il est bien. Tu sais, il y a bien de la joke de graines par-dessus. Là,
ouais.
Ça prend, faut que tu sois un archéologue avec un petit pinceau pour la trouver. Là. Mais moi, j'ai des messages beaucoup plus sur l'acceptation de soi, l'acceptation du corps, trouver son bonheur, avoir des relations saines. C'est beaucoup ça qui ressort de mon humour, les observations sur la vie. Puis le politique, c'est moins mon truc. Même des fois, je vais dire des trucs, c'est comment a dit-tu ça ou a dit son
exactement.
Contraire.
Ouais.
Puis la limite me dérange moins là-dessus. Mais j'ai l'impression que des fois, là, ça nous déchire en humour, puis ça n'a pas besoin de faire ça. En tout cas, j'ai l'impression.
Ouais. C'est que je sens beaucoup que les médias, puis en plus, on en a parlé une couple de fois dans l'auto quand il y a eu le mouvement hashtag MeToo. Toi, qu'est-ce qui te faisait chier? Puis
t'avais barré les portes, j'essayais de sortir.
Toi, ce qui me faisait chier, c'est qu'on m'avait pogné.
J'étais comme tabarnak. Mais elle, qu'est-ce qui faisait chier, puis j'en comprenais, c'est que quand c'est arrivé tout ce mouvement-là, tout le monde demandait, il y a beaucoup de gens qui demandaient à elle, comme genre, toi, qu'est-ce que t'en penses?
Ouais.
Qu'est-ce que tu ressens? C'est quoi tes émotions? Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait dire? Mais t'es comme, yo, c'est pas parce que je suis une femme que je suis obligée, là.
Ouais.
Juste, t'es merde.
Touchez pas les gens. C'est
juste, s'il vous plaît.
C'est ça, mon opinion.
C'est ça,
en
pour
général.
Moi, c'est tellement obvious aussi, ouais. Mon opinion. Puis c'est comme si on t'invite à tout le monde en parle. Puis là, la moitié de ton entrevue parle d'une affaire qui est comme. Ils ont fait un lien avec ton casting, mais toi, c'est pas ça que t'es venu parler. T'es venu
non,
parler de ton
ça,
show d'humour, tu sais.
Je suis venu parler de mon chat.
Ouais.
Il y a pas de.
Même, il y a des gens, mettons quelqu'un qui est noir, puis il se fait inviter à la radio, puis il m'avait dit vont-tu me demander pour le N-word, tu sais, vu que là on parle du split, j'étais comme c'est plate que t'as à te demander ça, tu sais, puis que t'as à
ton
vivre
album.
Ça, genre pour moi c'est clair. Ben je vais le dire aujourd'hui à coming out, je suis contre les viols.
Je l'étais pas avant.
On fait un montage, on change le compte pour.
Ouais, c'est ça. Juste pour le fun. Mais à l'humour, je respecte les gens qui font de l'humour politique. Puis je trouve qu'il y a du monde qui font de l'humour politique à gauche. Puis qui sont pas drôles. Puis il y a du monde qui font de l'humour
ouais.
politique à droite. Puis des fois, ils sont punchés. Puis l'inverse,
ouais.
est vrai. Fait que
ouais.
moi, quand j'écoute de l'humour, je donne une chance. Puis des fois, je me dis, ah, la prémisse, c'est pas exactement mon opinion. Mais crime là, c'est punché. Puis, tu sais, j'essaie juste de le prendre pour ce que c'est. Puis je pense que j'ai une belle ouverture d'esprit dans la façon que j'ai de le recevoir. Mais chaque il y a des petits frettes des fois, puis ça, tu sais, c'est comme ça.
Sincèrement, je le vois. J'ai pas,
moi, je le sens.
J'ai pas vu
Tu sais, qu'est-ce que je trouve?
J'ai pas vu autre que ouvertement Sugar Sammy qui avait dit, mentionné qu'il était conservateur, je pense, au fédéral il y a genre fucking 10 ans.
Les gens de droite, ils en parlent pas sur scène.
Mais je vois pas, puis je vois. J'ai beaucoup d'affinités avec du monde qui sont vraiment de gauche. J'ai des affinités avec d'autres amis. En humour, j'en ai pas vraiment vu du monde de droite-droite, mais j'ai des amis à moi qui sont plus conservateurs, qui sont plus traditionnels.
Les gens de la gauche vont être plus verbales par rapport à ça, puis les gens de la droite, ils vont moins te le dire sur
ça. Ça fait chier, ça, par contre, qu'ils ont peur de le mentionner. Je trouve qu'il y a manière de puncher sur tout. Il y a personne qui devrait être un militant sur scène, selon moi, parce que ça n'a pas sa place nécessairement.
Parce que je pense qu'ils ont vu l'impact que ça fait sur les réseaux sociaux, fait qu'ils autres se sont dit, tu sais quoi, je vais pas le dire à voix haute.
Ouais.
Parce qu'ils ont vu comment les personnes de gauche, tabarnak, ça jacasse pis ça hurle, bro. Puis tu sais, qu'est-ce que je trouve plate, pas seulement des personnes de gauche, mais aussi les personnes de droite. Quand tu donnes ton opinion, il va changer dans un an.
C'est exact. Ouais.
Dans deux ans, dans trois ans. C'est pour ça que quand toi, des fois, je vois que tu fais un peu de l'humour politique, je le sais que dans un an, ça va être quelque chose d'autre. Puis tu te prends pas au sérieux. Tu sors pas de scène puis tu fais pas comme « j'ai dit ce que j'avais à dire ». Non, ouais, bro. T'as donné un peu ton opinion puis tu sais que ça va changer. Moi, il y a beaucoup de choses qui ont changé qu'avant, je pensais à des affaires qu'aujourd'hui, je fais comme « yo, c'est... » Ça fait aucun sens.
Ça va vite en humour. Là. Tu regardes une captation il y a trois ans, t'es comme, ah, what the fuck, qu'est-ce que je suis en train de dire? Là? Ça n'a même plus de sens. Là,
mais c'est pour ça que je trouve que l'humour personnel, ça vieillit quand même bien. Parce que c'est ta vie à toi. Il n'y a rien de plus vrai.
Puis c'est unique. Moi, il y a des gens, mettons, il y a des affaires de vol de blagues. Telle personne a pris mon liner. Je suis comme, quelqu'un part avec mes blagues, là, bonne chance. Là, genre, Émile, il parle de sa culotte de cheval.
Tu vois-tu Jean-Michel qui parle de genre fucking spéter le clé?
C'est comme, moi, bonne chance avec mon humour, là, part avec mes jokes si tu veux, mais ouais, ça te donne un privilège de faire quelque chose d'authentique, là. Mais de plus en plus, j'ai l'impression qu'on se fait juste clickbait par les médias, puis le mieux, c'est d'avoir des beaux rapports avec tes collègues, puis t'es capable d'avoir des discussions.
Je trouve que toi, tu fais partie des femmes dans l'humour que t'as jamais chiolé. Quand t'as commencé l'humour, tu faisais tes shit, puis là, t'as juste monté tellement rapidement. Je t'ai jamais entendu dire, genre, « Ah, c'est qu'on n'a pas de place. »
Non, mais on a des fois, on a plus de place. Puis ça, c'est gênant de parler de ça, mais c'est comme une médaille à deux revers. Il y a du sexisme, tu peux vivre quelque chose de désagréable dans une soirée d'humour, qui est dans un bar, c'est un lieu avec de l'alcool, des gens que tu connais pas. Tu peux, mettons, dans ta culture, dans ta famille, ça peut être pas valorisé d'être une fille drôle ou dans la société.
Ouais.
Il y a toutes sortes d'embûches. La même chose qu'on dit, à l'école d'humour, tout le monde est la bienvenue. Ben, tout le monde est la bienvenue. C'est un chèque de 15 000 dans les mains.
100%.
Fait que dans le fond, c'est pas tout le monde qui est la bienvenue. Fait que dans le fond, il n'y a pas d'accessibilité pour les gens qui viennent d'un milieu. Tu sais, il y a des bourses, il y a des prêts, mais il y a toutes sortes d'embûches qui fait que c'est pas vrai que tout le monde a accès à faire de l'humour. Mais après ça, quand tu es une femme, puis tu te lances, puis ça fonctionne bien, mais là, tu vis le contraire. Le téléphone sonne constamment aller chercher ça, puis il y a une demande pour ça. Puis la même chose avec la diversité. Tu vas vivre plein d'embûches, t'as moins de chances de te rendre, mais une fois que t'es rendu, ben là, tu vas te faire rajouter sur des affaires, tu sais. Puis moi, je suis prête à accepter la dualité de ces deux choses-là.
Oui.
Puis je suis pas en train de dire il y a pas d'embûches pour personne, c'est complètement faux, mais je vais être capable d'admettre le contraire aussi, que des fois, ça va te donner des opportunités. Pis ces opportunités-là, après ça, c'est toi qui décides. Est-ce que tu y 100%. Vas... Est-ce que tu y vas reculons en disant « Ouais, je suis juste là parce que je suis une fille » ou « Je suis juste là parce que je suis
noire,
je suis juste là. » Fait que là, je vais le faire à reculons. Non, maintenant, là, t'as eu ta chance, prends-la. Puis moi, c'est de là que ça vient. À l'impro, la devise de mon équipe d'impro, c'était « Tout prendre ». Puis c'est ça que j'ai fait en humour, tu sais. J'ai jamais chialé parce que ça sert à rien de chialer. Puis chaque soirée d'humour m'amener à une autre soirée d'humour, puis ça a commencé avec toi, avec Richardson Ziffé, puis là, il y a une place, puis chaque show amène un autre show, puis moi, j'ai vécu tout mon début de carrière comme une audition. Tu te dis, Michel, il n'y a pas d'audition, il n'y a pas de juge. Non, mais chaque affaire que tu fais, il y a quelqu'un d'autre dans la salle qui va te donner un autre spot, qui va te donner ton ami, avec qui tu vas brainstormer, avec qui tu vas faire une web-série, un podcast, puis ça va donner un réseau de chums, puis ça va te donner une force, tu sais.
Putain de merde.
Vraiment, puis à cause de ça, je suis tellement contente de tout ce que j'ai fait. J'ai mis le pied sur le gaz quand j'ai vraiment commencé, puis j'ai jamais arrêté, tu sais.
Fuck!
Yes. Vraiment, c'est pas quelque chose à la
fin de en ce moment, Yo, ça va, Vin Diesel?
Let's go!
Fait qu'elle a mis le gaz, bro, c'était wow!
T'es quelqu'un qui travaille fucking fort, oui. Puis ce truc de performance-là, est-ce que tu sens, comme quand tu disais que tes parents, la culture de la performance, est-ce que tes parents sont divorcés à quel âge?
Ça commence à faire longtemps. Ça fait pas 15 ans qu'ils sont divorcés.
Ça fait 15 ans. Fait OK, puis...
Il était... Tu sais, je devais avoir comme 6 ans, 7 ans.
OK, quand même jeune. Puis ta mère était mère monoparentale, mais est-ce que tu étais autant dans les deux ou tu étais plus avec ta mère?
Moi, j'ai utilisé le mot monoparentale, mais mon père était tout autant impliqué. C'est comme moitié-moitié, là. Mais tu sais, monoparentale dans le sens, dans la situation, elle est quand même accompagnée de 4 enfants, puis il faut qu'elle chauffe, là.
Puisque le père était tout le temps en cours avec des chiens, avec des chiens.
Est-ce que ta mère, puisque les deux, j'assume ton père avait un bac.
Son père, c'est John Wick, OK?
Ouais, mon père. Non seulement il se bug des chiens, mais il y a, je pense qu'il y a comme un bac en comptabilité, il a passé à travailler en ressources humaines, mais à 50 ans, mon père, pour le fun, il est allé compléter son droit à l'UQAM. Puis même, j'ai un ami qui est allé sur une date avec une fille de l'UQAM, puis elle commence à dire « Hey, il y a un gars dans mon cours de droit, il y a 50 ans, mais il est fatigant, et il parle tout le temps du droit des pères, puis tout ça. » Là, mon ami dit...
le droit des pères.
Mon ami, il dit, il s'appelle-tu comme ça? Puis là, à la fille, est comme, ouais. Fait que mon père, c'était le doux dans la classe de l'UQAM de 50 ans qui lève sa main pour dire, oui, mais les pères...
les hommes ont des droits.
À chaque fois, il lève sa main, puis il est comme...
Comment ça se fait qu'à 5 ans, j'ai pas de la bouffe, tabarnak?
C'est-tu légal?
Aïe, aïe! Tu me fais mal!
Il est retourné pour voir s'il avait intention de poursuite contre son ex-femme sur le fait que le souper était pas prêt.
Ça, c'est drôle, Jacques.
Je vais juste élaborer, OK? Ma femme est docteur. Mais moi, à 5 heures, je veux mon pâté au chinois. Qu'est-ce qui se passe?
Comment
ton
ça se fait? Pâté au chinois, c'est un peu assez ça.
Pâté chinois, excuse-moi.
Il est tout le temps comme, mettons qu'on prend une situation hypothétique où un homme
chauve,
mettons, qui se divorce, exemple.
Château gay.
Il a faim.
Puis là, c'est comme le professeur, comme, Monsieur Desrochers, on est dans un examen, OK? Il n'y a pas de question demain.
Il n'y a pas d'hypothétique, là.
Ton père, ta mère est médecin, il a... Veux pas, il y a un petit peu de performance qui vient
de devenir médecin.
Il y a un peu beaucoup de...
un petit peu de travail pour devenir médecin. Tu fais pas juste fly-in au cégep puis à l'université. Est-ce qu'ils étaient stricts sur les études?
Assez, mais mes parents, si on vient à la compétitivité, c'est pas strict. Fais ton devoir, je veux que tu sois bonne. C'est... T'as eu 96? Moi, j'avais eu 98. C'est ça, tout le temps, c'est le concours, tu sais, c'est des paris. T'as plus que 95 partout dans ton bulletin, t'as un certain nombre d'argent. Mon père, quand on n'avait pas de carie, il nous donnait 40 piastres de la non-carie. Mais tu sais, tu penses, c'est...
C'est même pas ta faute, c'est le pH dans ta bouche, c'est même pas les bonbons.
Non, mais tu penses, ça a du sens, parce que 40 piastres, ça a l'air beaucoup. Mais réparer une carie, ça coûte 200, fait que t'es comme, dans le fond, tu rentres dans ton argent, là, dans ton système dedans.
Moi, quand j'avais pas de carie, ma mère, t'es comme, je te casse pas la gueule, merci, j'ai pas dépensé de l'argent.
C'est comme la fée des dents, version comptable.
C'est fucking drôle, ça y allait, puis il y avait comme pour chaque quart de ta bouche, vous avez droit à 40 piastres s'il y avait pas de carie dans votre bouche. C'est un psychopathe, ton père.
J'adore ton père, je suis en amour.
C'est des beaux souvenirs, by the way. C'est ça, des affaires, tu dis, ça, c'est un traumatisme. Non, hey, on se rinçait au Rainsbow dans le parking de même.
C'est fucking smart. Yo, cash is king. Cash is king.
Mais je dirais, à cause de la performance de mes parents, puis cette idée-là, puis ça revient à découvrir mon, tu sais, ce qui est normal au cégep, puis se détendre. Moi, j'ai un amour de la paresse et de rien faire qui est fort. Là.
Ouais, OK.
Quand même, là. Puis je m'assume là-dedans. Moi, je serais pas dans un 9 à 5, tu sais. Puis des fois, comme humoriste, c'est sûr que j'ai mis plus que 40 heures semaine. 100%. Tu sais, d'une façon ou d'une autre. Déjà, en ayant ça en tête, en faisant les réseaux sociaux, en ayant tout le temps, ah, ça, c'est une joke, faut que je le note, faut que je réponde à mes courriels, faut que je fasse la promotion, faut que je vende l'étiquette. Jacob, c'est un gars, il a t'as eu des soirées, t'as fait la promo, t'as fait des affiches, t'as rempli ta salle, t'animes, tu book. Ouais. Ça, là, c'est des heures et des heures, là, que arrêt. Peut-être au fond tu fais un 70 heures semaine.
100 000%.
Mais avec moi-même, j'aime ça être humoriste, puis savoir que le mardi à 13 heures, je peux aller faire un jogging d'une heure. Hey, tu vas au magasin un mercredi après-midi, puis il n'y a personne. Oh, ce petit privilège-là de prendre soin de moi, c'est un cadeau que je me fais. Mais des fois, je travaille super fort, puis j'en ai aligné là, des shows, des runs avec de la route, puis ça, puis j'adore ça.
Oui.
Mais j'assume mon côté rien faire, puis paresse, puis je pense que ça, c'est la santé aussi. Puis je pense qu'avec la pandémie, il y a du monde qui ont commencé à catcher ça, là, de « OK, j'aimais pas ça être dans le trafic 3 heures par jour, par Zoom, je me sens mieux. Ah, ben peut-être que je pourrais avoir plus de respect de mon employeur. » Si je remets en question un modèle qui est là depuis des centaines d'années. En tout cas, donc moi, j'assume mon côté performance, puis c'est vrai que j'ai un petit côté lion, puis intense, puis il faut que j'aille chercher mon nanane, puis j'ai besoin de ça. Mais j'ai un amour de la paresse et du rien fucking faire nice. Qui est quand même assumé.
Il n'y a rien de plus cool que t'as une run, on va dire, de 12 shows dans une semaine, puis le lendemain, t'as absolument rien, puis là, t'es comme, hey, tu sais quoi? Je regardais un film au cinéma à midi.
Explosé.
T'es fatigué, mais t'es comme, yo, j'ai ça, là.
Ouais.
Là, t'es tout seul dans le cinéma, puis t'es comme, je peux faire ce que je veux.
Ouais.
Ouais. Puis t'as aimé ça, tes 2 jours de job, parce que ma job, je la ressens même pas comme une job, tu sais, parfois. Il y a des petits moments, là, que c'est comme un stress qui va peser, où, tu sais, t'es comme... T'essaies de te détendre, puis là, tu penses à ce que les gens pensent de toi, puis tout ça. Mais overall, j'ai l'impression un peu aussi de ne jamais travailler. J'ai l'impression que j'ai crack the code, j'ai comme brisé la matrice. J'ai plus jamais travaillé.
Ça va, Michel Tate?
Puis, OK, so, tes parents, ton père, poste en ressources humaines, ta mère, médecin, on va pas se le cacher, il faisait du bon cash. Est-ce que t'es quelqu'un qui était motivé par le cash ou jamais?
Jamais, jamais. Puis ça a été un problème, ça, parce que j'ai jamais développé ces mécanismes-là.
Tes impôts, c'est ça que t'as...
Non, mais de s'inquiéter du prix, tu sais. C'est même pas une réalité pour moi de regarder le prix, tu sais, à quel point je suis déconnectée, là. Jacob est comme...
J'ai regardé le prix dans tout.
C'est ça. Moi, je sais même pas le prix de la pinte de lait, tout ça, puis je suis pas fière de tout ça, mais à cause de ça, en fait, c'est que je déteste le conflit lié à l'argent.
Exact.
Donc, je fuis ça, puis pour moi, l'argent, c'est une solution. C'est, mettons, on se poigne, là, Gilles Dorman nous laisse pas passer, puis là, là, tu sais. Puis, je dis pas que c'est sain, ça, là. Puis.
C'est très sain. c'est tellement sain.
C'est big business.
Fait qu'à cause de ça, j'ai un rapport qui est flouté à l'argent, je te dirais, mais je me suis informée, là. Je le sais qu'il y a des gens qui ça n'a pas toujours été facile. Ouais. Tu sais, une vidéo d'un chat, là, qui vole une tranche de pain, il cachait des tranches de pain parce qu'il a déjà manqué de bouffe sur la rue, là. Les gens qui ont vécu le manque, là. Ouais. C'est une autre vie, c'est un autre rapport. Mais moi, j'ai vécu le contraire de ça, qui est à dire tout avoir tout le temps. Puis comme adulte, j'ai fait comme, oh boy, OK. Moi, je check même pas ma visa. Là. Je pourrais m'être fait frauder, mais je serais pas au courant.
C'est
là,
même
t'sais.
Pas que comme ton compte est pas les blindés.
Émile Coury, puis t'es quand même chier avec ça.
Moi, je suis correct. J'ai acheté des skidous sûrement dans la nuit.
Même quand t'as quitté chez tes parents, l'argent, ça stressait pas?
Non, ça m'a jamais stressé. Puis j'ai toujours été backé par mon père jusqu'à une fois. Mon père m'a amené au Amir. Il m'amène tout le temps à une place qui a des TV. Là, je parle de mes émotions. Il regarde le golf en arrière, tu sais. Puis il m'a dit... Là, j'étais rendue à la fin de l'université. Puis à l'université, j'allais pas vraiment à l'école. Parce qu'oublie pas, j'avais ma pension alimentaire qui rentrait. Ouais. Fait que là, j'étais plus de dépression, lecture de poèmes, drogue. Et les manos à mire. Puis il m'a dit là... Gagne ta vie.
Sinon, c'est ton dernier chichtaouk que je te paye.
Ouais, il était tanné de payer le chichtaouk, m'a dit. Puis là, je me suis inscrit à l'école de l'humour, puis là, j'ai mis le pied sur le gaz, puis je l'ai fait. Mais ça a été, pour moi, il y a une pause bizarre parce que à 13-14 ans, j'avais fait du secondaire en spectacle, j'avais fait du stand-up au secondaire, j'avais fait la genre de poésie un peu à la sol, j'avais gagné beaucoup de prix, j'avais fait de l'impro, du théâtre. Mais quand je suis arrivée à l'âge adulte, je suis mis dans un mensonge de genre, je vais être prof de littérature.
Okay.
Puis là, j'étais comme, je vais faire des jokes pendant le cours, tu sais. classique, là.
C'est quand même malade comme prof.
Un classique, là, ouais. C'est ça. Puis peut-être un jour, je ferai ça, mais... Fait que de faire le saut, là, de s'exposer, puis peut-être ça venait de mon éducation, mais de s'exposer à l'échec, de s'exposer au malaise, ça me faisait peur. Mais quand je l'ai fait, c'était tout ou rien, tu sais.
Mais je pense que c'est ça qui a fait en sorte que maintenant... T'es rendu où est-ce que t'es parce que t'as pas eu à penser à comme, OK, qu'est-ce qu'il y a en arrière? Est-ce qu'il y a du risque pour le futur? Si t'étais pas consciente que ça pouvait peut-être.
Oui, puis à cause de ça, je suis la pire amie parce que je dis au monde, lâche ta job, fais-le. Tu sais, comme moi, j'ai toujours tout eu, puis là, je suis comme, oh quoi, t'as 2 enfants, lâche ta job, fais-le.
Lâche tes enfants,
fais-le. Vis ta passion, voyons, fais-le. Tu
serais la pire conseillère de tous les temps. Là.
Ben, sérieusement, financièrement, oui, parce que tu me diras, ah, j'ai une idée de compagnie de chandelles, puis là, je te dirais, lâche tout.
Achète
des mèches.
Moi, j'achète des chandelles maintenant. Je suis ta première cliente.
Ouais, moi, je suis bien à vie ta passion, mais encore là, tantôt, je parlais de privilèges puis de l'école d'humour, là, ça revient tout à ça. Là. Si j'avais pas eu... Tu sais, la société, là, des fois, il y a du monde qui ont un regard sur les gens qui se retrouvent en situation d'itinérance puis disent, voyons donc, cette personne-là fait des mauvais choix. La vie, là, c'est des filets. Là. Toi, t'es là, puis en dessous, il y a ta famille là, qui va t'attraper s'il arrive quelque chose. Pour ça, il y a tes chums, puis il y a tes collègues de travail. Puis sinon, il y a la société qui est un filet plein de trous, là, mais ouais, qui est là comme en backup. Puis moi, j'ai juste eu des bons filets dans la vie. Exact. Fait que tu sais, quand j'étais au cégep, là, puis que j'ai expérimenté avec la consommation, puis que j'ai eu des hauts et des bas psychologiquement, bien, c'est tous des moments où si j'avais été dans un autre contexte, bien, peut-être la vie m'aurait pas attrapé. Mais là, mon père était là, ou Amir, pour...
pour te dire, réveille, tabarnak.
Tu sais, m'accueillir, puis tout ça. Ouais. Donc, moi, je sais que je viens d'une réalité de privilège, mais ce que j'ai décidé de faire avec mon humour, c'est de redonner le plus possible à ma façon, puis d'essayer de faire un humour qui fait du bien, puis qui donne les bons messages. Puis c'est sûr, j'arriverai jamais kiff-kiff parce que non, la vie m'a trop donné. J'ai eu tellement d'amour, puis de belles choses, puis j'ai vraiment beaucoup de gratitude. Mais si j'arrive à donner juste un petit peu de ce que j'ai reçu, je vais être bien contente.
Je pense que c'est dans la prochaine vie que tu vas te faire maltraiter.
Non, moi, je le mérite.
Ça va être Louis C.K. qui va l'attendre à la porte comme « Welcome, have a seat ».
Puis elle a fait comme « Yes, sir, let's do this ».
I understand.
I had a good life.
Puis je le mériterais, là. Si je suis réincarné en vieux toaster, là, ben ça sera ça, ma vie.
Mais t'es une fille de solution, c'est ça que j'aime. T'as vu avec l'argent, t'as vu avec tout. Fait que je pense que t'as une mentalité comme ça. Fait que oui, je crois que la vie t'a vraiment bien... t'as tout donné, mais je pense que aussi t'attires ça. Ouais. Parce que quand il y a un problème, c'est comme il y a une solution. Même quand t'as vécu ta rupture, t'as fait comme je vais pas me lamenter, j'avance là.
C'est ça. Ben souvent, on me décrit comme étant résiliente. Des fois, je suis comme
qu'est-ce que ça veut dire résiliente?
La résilience, c'est que tu ça veut dire que tu les embûches, tu règles tes problèmes comme tu dis, mais aussi tu perds jamais espoir. Puis des fois, ça veut dire t'as eu comme beaucoup de trucs qui auraient pu te démotiver, mais tu vas toujours au-delà de ça. Mais on va parler de résilience pour quelqu'un qui a combattu un cancer. Ouais. On va parler de résilience pour quelqu'un qui est né dans la pauvreté puis qui s'en est sorti, ou quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale, quelqu'un est résilient, qui est jamais dans l'abandon, la défaite, qui est dans le positif, dans la solution, puis dans le sourire, tu sais. Fait comme on a souvent décrit comme ça, mais des fois je me dis coudon, qu'est-ce qu'il essaie de dire? Je l'ai pas eu facile, tu sais, mais moi je trouve que je l'ai eu facile quand même.
Ben, c'est tout, ouais, mais tu ouais,
mais oui, c'est être consciente. Il y a des gens qui vont critiquer. Ah ouais, lui est allé, il a fait ça parce que ses parents l'ont aidé. Ah oui, mais OK, mon père peut me donner une avance de 50 000 $ à investir dans mon entreprise.
Ouais.
Mais ce que je fais avec le 50 000, c'est ce qui va en résulter. Il y a du monde qui a eu des opportunités que leurs parents ont payé l'école d'humour, mais ils n'ont pas mis le pied à fond dans,
100%.
Sur le champignon. Sur la carrière n'a jamais avancé. Oui, je comprends qu'il y a certaines personnes qui sont dans une position de privilège, puis tu étais consciente, mais il ne faut pas non plus avoir ce guilt d'avoir été dans le privilège. Je dois pas me sentir mal d'avoir eu l'opportunité que mes parents me supportent. Si toi qui as vécu la misère puis t'es rendu au même niveau que moi, tu aurais eu l'opportunité de l'avoir plus facile, qui dirait non?
Ouais, exact.
Consciemment, qui dirait non, je veux pas l'avoir, je veux pas une pause dans la vie.
Mais c'est ton orgueil, c'est comme genre moi aujourd'hui tu me demandes de genre avoir de l'aide, tout ça, aujourd'hui je vais dire oui, mais le Jacob d'il y a 4 ans, il ferait comme non man, si je vais me débrouiller, j'ai vécu la haine, j'ai vécu la pauvreté, je suis capable, mais comme je pense que c'est l'orgueil qui fait en sorte que tu veux pas accepter de l'aide.
Ouais. Ouais,
mais c'est accepter de l'aide, mais aussi c'est que tes parents, c'est tes parents. Autant que ta fille va vouloir un jour être indépendante, quoi que ce soit, mais si, quand elle a 16-17 ans et elle dit « je vais à l'université », je devrais pas me sentir mal de payer son université. Puis elle devrait pas sentir mal que quelqu'un est en train de payer son université.
Mais c'est ça, mais ça serait weird de voir genre toi, Michel Desrochers, de genre voir tes parents faire comme genre « soyez alcoolique, frappez-moi,
c'est plate,
je veux que ce soit difficile ».
Il se passe à rien, la gang.
Il se passe à rien, ça va bien. Le divorce, c'est bien parce que fuck!
Mais il y a beaucoup de gens qui vivent ça, tu sais. Puis c'est une différence de génération, mais il y a beaucoup de monde qui arrive à 20 ans, 25 ans, puis sont comme « ah non, je suis comme brisé, mais j'ai pas de raison », tu sais. Puis ils sont mal avec ça. Puis nos parents aiment pas ça, parce que c'est pas la génération « je vais voir un psychologue », c'est la génération de travail, ça va aller mieux, puis tu y penseras plus, tu sais. Fait qu'à cause de ça, il y a du monde qui sont comme « ils cherchent l'affaire qui les a cassés parce qu'ils trouvent pas qu'il y a une justification. Mm-hmm. » Mais moi, c'est une chose que j'essaie de passer comme message, c'est demander de l'aide.
100%.
C'est courageux. C'est associé à la lâcheté, mais c'est tout le contraire. De s'admettre à moitié vaincu, s'admettre demander de l'aide, là, c'est super courageux au fond, même si c'est pas vu comme tel. Là,
ouais, c'est ça. Juste dire que t'es dans le doute ou que t'es curieux ou que tu comprends pas ça, mais c'est parce que ça prend tellement de la vulnérabilité de faire comme OK, là j'accepte que. C'est que quand tu demandes l'aide, c'est qu'inconsciemment, tu es en train de te dire « j'ai vraiment tout essayé ».
C'est ça, oui.
Fait que là, la personne qui veut demander de l'aide fait comme « ah, j'ai-tu vraiment tout essayé ?»
Mais parce que les dudes aussi, on vous montre à pas le faire. Puis ouais, des fois, c'est comme, ça serait winner. Mettons, pour ta famille, tes deux enfants, ta femme, ça serait plus winner que tu t'ouvres sur, hey, en ce moment, on n'arrive pas, ou je suis stressé, ouais, que de pas le faire, genre, parce que c'est ça qui mène à une prise d'otage dans le bois, tu sais. Fait que j'essaie de quand même passer ce message-là, mais je pense qu'au niveau des générations, que ça, ouais, commence à s'ouvrir, ça, puis les vieux vont toujours nous dire, oui, oh, vous êtes fatiguant, vos émotions, là.
Tu es gay, toi, tu, ouais, vas voir un psychologue.
Non, oui, on a.
Mais tu es gay.
Je pense que in the end, tout le monde va être gagnant là-dedans, puis ça va devenir plus normal de dire, oui, ah, là, j'en ai jusque-là, puis, ouais, on règle ça tout de suite au lieu que je pète comme un presto dans 5 ans, tu sais.
C'est weird ce que je vais dire. C'est vraiment weird ce que je vais dire, mais. Ça fait un peu... Ah, je vais le dire.
Dis-le.
Il dit.
Puis je vais le regretter, mais c'est
ça
correct.
Ça peut pas être pire qu'un rêve d'enfant, tu sais.
Parfait. OK. Ça, on dirait que je trouve ça étrange, mais ça fait un peu homme. De genre, OK, je vis cette situation-là, c'est difficile, on va passer à travers, je vais pas en parler. Puis là, tu, ouais, passes à travers, puis t'es comme, OK, là, j'ai peut-être un cancer, une tumeur dans mon foie, mais ça reste quand même que je l'ai surmonté, parce que moi, je l'ai fait cet été. Cet été, j'ai eu un problème d'argent, puis j'avais... J'ai pas été capable de payer mon hypothèque. J'ai parlé à ma blonde, j'étais comme, hey, je suis vraiment dans merde. Ce mois-ci, je peux pas payer l'épicerie, je peux pas payer l'hypothèque. Il manque de l'argent. Puis j'en parle à Émile, j'en parle à mes deux meilleurs amis, j'en parle à mes parents. C'est la première fois que je suis. Parce que j'étais dans merde auparavant, mais j'ai tout le temps gardé ça.
T'as réussi à...
J'ai tout le temps réussi. Ouais. Là, c'est la première fois, parce que je vois un psy, je parle beaucoup de mes émotions, je fais, on va le faire, ça va te faire du bien, Jacob, arrête de garder ça. J'en parle à Émile, puis Émile, meilleur ami, il fait comme, OK, je peux te passer de l'argent, je peux faire ça. Je fais comme, non, je veux juste m'ouvrir, c'est juste ça.
Ah, oh, ouais.
Mes amis, je leur en parle, chaque semaine, ils m'appellent, ils font comme, yo, tu veux-tu que je te fais un in-transfer, tout va bien? Là, je suis comme, bande de fils de pute, bro. Je vais juste m'ouvrir. Mon père, hier, me demande, est-ce que ça va bien l'argent? Je fais comme, je t'ai dit que ça va bien, là. Ouais. C'était un moment de peur. Mais on dirait que les gens alentour, c'est nouveau. Fait qu'ils vont tout le temps te faire rappeler que, genre, c'est pour ça que des fois, je fais comme, ah, si j'avais rien dit. Oui, il y aurait une vertèbre qui serait déplacée. Mais personne n'aurait remarqué ça.
Ouais. Mais moi aussi, des fois, je fais ça, j'ai peur. Parce que c'est comme quand quelqu'un de ta famille te demande si tu vas bien. Là, tu dis ça va pas bien. Là, tu le revois pas pour 8 mois. Puis lui, c'est comme c'est l'update qu'il donne à tout le monde. Il comme,
elle veut se pendre.
Jacob, il est cassé solide.
C'est une pauvre.
Bande pue. Tu sais, t'es comme, ah, j'aurais peut-être dû pas le dire.
Sa femme est sec quand elle voit.
Je pense qu'il commence à être aveugle.
Je viens à la défensive. Je suis comme, je vais bien. Puis là, personne n'est convaincu de ça. Là. Fait que ça, je le comprends, que ça devienne un truc qui te suit, oui, après. Là, tu veux être connu pour genre tout le monde dans ta famille pense que tu vas, ouais, bien, puis que
puis c'est aussi la perception de c'est gênant des fois un peu de dire comme c'est gênant, ouais, de comme devoir prendre ton courage puis de genre
yo, ça va mal
dans une ouais, situation financière difficile, je vais pas bien puis je sais pas pourquoi, puis là tu t'assois avec quelqu'un puis t'essayes de t'ouvrir, tu te build up, surtout que je suis tout dépendamment de ton type de personnalité, par exemple moi je m'ouvre pas vraiment, so, m'asseoir ça me prend une heure de courage, oui, avant de devoir dire comme, ouais, ça va pas bien. Puis quand tu le dis, souvent, dès que ça sort, t'as la réponse qui vient dans ta tête. T'es comme, ouais, oh, j'aurais pas dû le dire parce que maintenant, ils pensent que je suis un perdant. Puis là, oui, comme, c'est tout un cycle vicieux. Moi, en réalité, il n'y a rien. Tout
j'avais ça avec
avant.
La psy. Moi, je vais voir une psy une fois, j'y déballe mon sac, je vais chez nous, je suis comme, j'ai gossé, j'enchais chaque journée. Là. C'est sûr qu'elle me déteste. Genre, tout le long, j'étais comme, ça doit pas être un vrai problème, mais il y a ça. Puis ça non plus, ça doit pas être grave. Ouais. Désolée de déranger. Puis justement, j'étais comme, voyons, ça n'a rien donné. Mais l'affaire de parler, c'est important parce que tu parlais d'un cancer, là, moi j'ai peur de ça. Mon père il me dit si je tombe malade, je vais pas vous le dire. Je suis comme, c'est pétrifiant ce que tu me dis, genre.
Man, ça jaillit ça de mes parents, ça serait tellement leur.
C'est horrible, il faut que tu le dises à un moment donné, là, pas la veille. Hey, en passant, je suis sur mon lit de mort, si t'avais un petit dernier truc à me dire, je suis comme, il faut que tu le dises, là, ça
c'est
pas
parce
de
que
sens,
lui dit qu'il va pas le dire, mais c'est parce que ta mère est docteur. Elle va le voir.
elle va pas le traiter.
Puis elle va pas le traiter, c'est ça l'affaire.
Puis juste avant qu'il meure, il va être à une seconde de la mort, comme tu voulais un steak, ça c'est ton steak.
Puis tu vas entendre juste pip! Là, tu vas entendre pip, pip! Moi, le finir, le steak!
Mon papa, un homme qui a faim.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.